vous écoutez toujours l'émission État de splendeur. Vous êtes en compagnie de Patrick Assikian et puis il reste à peu près une demi-heure. Donc parlons de développement régional. On vient de parler précédemment de la situation du Témiscamingue, la région la plus à l'ouest du Québec. La sous-région, en fait, c'est la partie oubliée de Abitibi-Témiscamingue. Et puis maintenant, nous allons parler d'une nouvelle région qui subit un peu la même situation d'enclavement. Et tout juste avant, nous allons écouter une pièce de l'artiste de Montréal qui s'appelle Mosso, avec la pièce Paperclip, tout de suite sur les ondes de Radio Centre-Ville. d'écouter la pièce Paperclip de l'artiste montréalais indépendant Mosso. On parle de développement régional et maintenant c'est au tour de la Côte-Nord. On va parler de la Côte-Nord qui est un pays qui est très vaste et pittoresque et puis qui est même infini selon les dires de d'un de ses habitants les plus célèbres. Et puis la Côte-Nord mérite seulement qu'à être redécouverte. Et puis, cette région qui est en fait une des plus grandes du Québec, si on ne tient pas compte du nord du Québec, aussi connue sous le terme du Nunavik, cette région est pleine de potentiel, mais enclavée, en fait, puisqu'elle est isolée du réseau routier du reste du Québec. Et puis, ça fait plusieurs décennies que la population nord-côtière souhaite être désenclavée. En effet, il y a la route 138 qui est celle qui parcourt la région d'est en ouest. Et puis cette route-là tient un rôle vital vraiment pour la région. C'est elle qui unit la région et puis c'est le seul lien routier véritable qui lie la région. Et puis cette route, considérant son importance pour la région, n'est pas particulièrement solide ou large. Considérant que c'est d'une importance capitale et puis que ça fait plusieurs années qu'on réclame qu'elle se fasse réparer. C'est surprenant qu'il y a eu quelques travaux de, excusez mon terme anglais, patchage, il y a eu quelques travaux de rapiessage de la route, mais rien de très substantiel. Et puis malheureusement, ça reste une route qui n'est pas à la hauteur de la nécessité de la région. Et puis, c'est ça, la route se semble bien menue et puis se rend pas plus loin que le mythique actuel bout de la route du Québec, soit Natashquan. Et puis, ça fait seulement depuis 1996, en fait, que la route 138 se rend jusqu'à Natashquan. Mais néanmoins, c'est considéré depuis ce temps-là comme le bout de la route au Québec. Et puis, c'est un lieu quand même assez mythique. On sait d'ailleurs que Gilles Vigneault a décidé de s'y établir. Et puis, quand même, la population de la Basse-Côte-Nord, tout ce qui est au-delà du bout de la route à Natashquan, réclame depuis bien longtemps d'être désenclavée et puis veut être reliée par voie routière au restant de la Côte-Nord. Le gouvernement a semblé faire quelques annonces, surtout en 2010, considérant l'extension de la route. Mais malheureusement, c'est resté des promesses qui ne relieront point Natashquan à Blanc-Sablon. Il y a certaines villes qui vont avoir des tronçons routiers entre elles, mais par contre, le pont entre Natashquan et puis le reste du réseau routier ne se fera pas de ce mandat-ci, en tout cas. Donc, malheureusement, même le plan Nord et puis les plusieurs millions qui sont dévoués au développement des régions éloignées au Québec. Malheureusement, ce plan Nord ne va pas compléter la route 138 telle que prévue jusqu'à Blanc-Sablon, ce qui est très regrettable. Mais pourtant, il n'est pas trop tard, c'est toujours possible de le faire. Mais par contre, Blanc-Sablon commence à s'impatienter et puis il y a certains acteurs de la région qui ont fait des pressions sur les acteurs politiques pour que la route finisse par se faire. Ils demandent 500 millions pour compléter la route jusqu'à Blanc-Sablon. Ça semble très peu culturel de parler d'une route, d'une infrastructure et des millions de dollars pour construire une route et des ponts et tout ça. Mais par contre, c'est très important, même au niveau culturel, parce que pour pouvoir partager ces trésors culturels et autres avec le reste du Québec et voire avec le monde, il faut pouvoir communiquer avec le monde. Et puis Internet, c'est très bien, mais il faut pouvoir se rendre dans les autres villes et puis sentir qu'on fait partie de la même société pour pouvoir qu'il y ait un certain bouillon de culture. Et malheureusement, sans la route, ça reste une région mono-industrielle complètement éloignée et isolée. Et puis, on peut dire que, il fonctionne bien sans route. Pourquoi est-ce qu'on la construirait? C'est un peu dommage de changer la situation. Maintenant, c'est le fun s'y rendre en bateau. Mais on peut aussi dire que les campagnes avant l'époque de Duplessis, ils n'avaient pas d'électricité, mais ils savaient très bien comment survivre. Ils s'arrangeaient pour avoir des réfrigérateurs alternatifs. Et puis, pourquoi est-ce qu'on électrifierait nos campagnes? C'est pas nécessaire. mais allez leur demander aujourd'hui s'ils sont contents d'avoir l'électricité. Et puis, de toute façon, on ne parle pas de surindustrialisation d'une région, on parle vraiment juste de construction d'un lien routier, ce que la population réclame depuis bien longtemps. Donc, à cause de cette situation, la Basse-Côte-Nord au Québec reste reliée au reste du Québec par un simple bateau. Et puis, une bonne partie de la population de la Basse-Côte-Nord, c'est surprenant, mais une bonne partie de la population, même la grosse majorité de la Basse-Côte-Nord, commence à se considérer terre-neuvienne. Car en plus du fait qu'il y a beaucoup de terre-neuviens qui ont immigré en Basse-Côte-Nord depuis plusieurs années, il y a la population de la Basse-Côte-Nord qui bénéficie de plus d'infrastructures du côté du Labrador et de Terre-Neuve que de celui du Québec. Par conséquent, la population de la Basse-Côte-Nord commence, avec raison d'ailleurs, à se sentir terre-neuvienne. Moi aussi, si j'étais là-bas puis je ressentais que j'avais plus de ressources du côté de Terre-Neuve et puis que j'avais plus de liens avec la société de Terre-Neuve, éventuellement, je commencerais à me considérer comme un terre-neuvien. Et puis, bon, en plus de cela, il y a l'isolation profonde de ces communautés qui est assez honteuse puisqu'on ne fait aucun effort pour améliorer le sort de manière durable. Alors, à l'autre extrémité de la Côte-Nord, on a un peu la même situation, quoique c'est un peu moins grave. La Basse-Côte-Nord est vraiment excessivement isolée, mais la Haute-Côte-Nord, tout ce qui est à partir de Tadoussac, est moins isolée, mais quand même... c'est que les habitants de cette haute côte nord veulent que leur région se développe et quand même, ils se sentent quand même enclavés, ils veulent se faire désenclaver. À Tadoussac, qui est, comme tout le monde sait, il y a le fleuve Saguenay qui passe et puis c'est ce fleuve qui délimite la région de Charlevoix de la région de la côte nord. Tadoussac a toujours été un lieu d'importance, là. Même déjà en 1600, les Français y avaient installé un poste de traite. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder à la Côte-Nord, en se rendant à Baie-Sainte-Catherine, il faut faire la file avant d'embarquer en traversier pour se rendre jusqu'à l'autre rive. Il y a une moyenne d'attente de 30 minutes, mais il y a déjà eu des événements comme par exemple le 6 août 2010, il y a eu une moyenne de 2 heures d'attente, ce qui est une situation absurde pour traverser un kilomètre de fleuve, là. Et puis, bon, il a été question de construire un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac depuis les années 70. Les habitants nord-côtiers, en bonne partie, le réclament depuis bien longtemps. Mais il y a certaines personnes qui, bon, évidemment, les instances politiques qui sont réticentes à investir des millions de dollars pour construire le pont. Parce que, bon, j'imagine qu'il n'y a pas tout à fait de capital politique substantiel à se faire dans une région avec peu de population comme la Côte-Nord. Donc, c'est la région qui en souffre. Il y a aussi certains touristes qui disent que ça nuirait au paysage d'avoir un pont ici, mais c'est un peu dommage de penser comme ça. Parce qu'en fait, le pont suspendu qui a été proposé se marierait très bien à l'esthétique du fjord de Tadoussac. Et en 2004, c'était pas la première fois que ça se faisait, mais en 2004, il s'est déposé un plan par la firme SNC-Lavalin et Genivar pour la construction d'un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Et le gouvernement a malheureusement pas vraiment répondu à cette initiative. Il a plutôt répondu à une autre initiative en acceptant les plans pour la construction prochaine de nouveaux traversiers. Donc... À la place d'étudier le nouveau pont, on va acheter des nouveaux traversiers, donc continuer à se concentrer sur les traversiers et ne pas considérer les ponts. Et pourtant, le plan qui avait été proposé était très intéressant. Le pont ne passerait pas là où le traversier passe. Le pont passerait à peu près 400 mètres en amont. Il y a un lieu où les fils électriques passent. On peut le voir à partir du traversier. Les fils électriques traversent le fjord. Et puis, c'est à cet endroit-là que le pont passerait. Et c'est moins d'un kilomètre. C'est assez court. Et ça serait favorable parce que les trains routiers doivent malheureusement faire un détour de plus d'une heure au nord pour pouvoir passer le pont parce qu'ils ne rentrent pas sur les traversiers, eux. Et puis, c'est un nom. On peut se dire que pourquoi parler de ça ici? C'est tout simplement parce que c'est la clé pour que la Côte-Nord se développe. Et puis, se développe pas nécessairement de manière mono-industrielle, non. C'est justement, c'est pour favoriser la diversification économique, mais aussi culturelle de la Côte-Nord. Et puis, pour ceux qui n'ont pas été, je vous encourage fortement à aller visiter la Côte-Nord parce que c'est un lieu plein de potentiel et puis qui fait vraiment rêver. En tout cas, moi, personnellement, c'est ma région préférée du Québec. Et puis, tout ceci, c'est un enjeu non seulement pour Charlevoix et pour la Côte-Nord, mais pour le Québec entier. Parce que, comme je disais, c'est une région pleine de potentiel. Il y a des plages et des plaines de ressources. Il y a des forêts qui regorgent de richesses, qui commencent d'ailleurs à être exploitées. On voit des entreprises locales commencer à exploiter leurs ressources, la chicouté. Il y a des alcools qui sortent, il y a beaucoup de produits agroalimentaires, de la mer d'ailleurs. Et puis, il commence à se faire une certaine réputation à la Côte-Nord, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout ça pour dire que c'est un clin d'œil à ceux qui réclament la poursuite de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon et aussi pour ceux qui veulent la construction du pont de Tadoussac qui se fera, j'en suis certain, dans un avenir moyennement rapproché. Alors, tout ça pour en concluant, c'est pas pour rien que Gilles Vigneault a décidé de s'établir dans la Côte-Nord. Et puis, il y a aussi, en passant, il y a une société qui a été mise sur pied pour encourager, pour favoriser la construction du pont de Tadoussac. Vous pouvez aller vérifier sur le site etatdusplendeur.com, sur le blog. Il y a justement un article qui parle de cet enjeu-là et qui renvoie vers le site de la Société des ponts du Saguenay. On va justement, de manière à propos, écouter une pièce de Gilles Vigneault qui, lui, disait que la raison principale pour laquelle il s'est établi en Côte-Nord, à Natashquan, c'est parce que quand il regarde les forêts et les plages, c'est infini. On écoute, Au bout du cœur de Gilles Vigneault.
Ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens. C'est le musicien solitaire, le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord, l'âme tout en harmonie avec le viendront des ancêtres, je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes, on chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Au bout du cœur.
Pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'était Gilles Vigneault avec une pièce qui s'appelle Au bout du cœur, d'un album assez récent de sa part qui est sorti autour de 2004. L'album justement qui s'appelle aussi Au bout du cœur. Donc on a parlé de développement régional au courant de cette émission. On a parlé du Témiscamingue, région oubliée du Québec, qui est accessible ou qui n'est pas accessible par voie routière à partir du Québec. Et on doit faire un détour de 600 km à partir de Montréal, en passant par l'Ontario pour s'y rendre. Et on a parlé aussi de la Côte-Nord, qui malheureusement est toujours aussi enclavée que dès le début. à cause de Tadoussac et puis le pont qui est toujours pas construit et la route 138 qui ne se rend toujours pas et qui ne se rendra pas dans un avenir rapproché à Blanc-Sablon. Mais néanmoins, on ose espérer un développement de ce côté-là dans un avenir moyennement rapproché. Et il était question de faire la chronique fantomatique à la fin de l'émission. Et puis, la chronique fantomatique, cette fois-ci, aurait parlé d'un village fantôme, justement, qui se retrouve en Côte-Nord, un peu à l'intérieur des terres en Côte-Nord, soit la ville de Gagnon. Malheureusement, le temps ne nous le permettra pas. Et par conséquent, on va se laisser sur une pièce musicale, une autre pièce de l'artiste Mosso. Et puis, on va se laisser pour cette semaine à l'émission État de splendeur. Pour ceux qui veulent consulter les émissions précédentes, vous pouvez toujours aller sur le site internet étatdusplendeur.com. Et puis, c'est donc un au revoir jusqu'à la semaine prochaine. On se laisse tout de suite avec la pièce Paperclip numéro 2 de l'artiste Mosso.
L'événement Les Parcs en prose vous offre gratuitement des livres dans plusieurs parcs à Montréal. Pour connaître les détails, visitez les sites web suivants. Les Ailes de la Culture et Édition Pointe Fuite, Radio Centre-Ville sont les fiers partenaires de cette première édition.
Adoranique!
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traqué jusqu'à la mort. Tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale. Aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants? Non, je ne les déteste pas. Mais il faut les contrôler.
Au pays des bulles. toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descendons, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville,